France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Quatrième épisode de notre série consacrée à Simone de Beauvoir, comment les différents courants féministes considèrent Beauvoir. Tout le monde ne sait pas forcément à quel point le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, paru en 1949, a fait scandale à sa sortie. Certes, plus de 30 000 exemplaires vendus dans les 6 premiers mois et des lettres de gratitude envoyées par de nombreuses femmes. Une lectrice évoquée dans les travaux de la chercheuse Marine Rouche assure à Beauvoir en 1968 que ses livres, je cite, lui ont arraché une espèce de peau épaisse qui lui collait et que cela lui avait fait un grand nettoyage dans sa tête, même si suggère aussi la lettre, cela n'enthousiasme pas beaucoup son mari. Mais dans le monde intellectuel s'est exprimé beaucoup de consternation, voire de dégoût. François Mauriac a écrit dans le Figaro du 30 mai 1949, je cite, « Nous avons littéralement atteint les limites de l'abject », ce qui lui a valu une riposte cinglante de Françoise Daubonne, amie de Beauvoir, qui deviendra la grande figure du courant qu'on appelle l'écoféminisme. Rappelons aussi que Beauvoir a suscité des débats intenses au sein même des cercles féministes. Aujourd'hui, certes, une petite musique tend à suggérer que toutes les lignes théoriques du féminisme ont une filiation envers Beauvoir. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Les féministes n'ont pas toujours parlé ainsi. Analysons ce matin ce problème sans omettre que dans les débats vifs, aucun camp n'est à l'abri de certaines déformations de l'objet de la discorde. Bonjour Marine Rouche.
Bonjour.
Vous êtes historienne des féminismes, spécialiste de Simone de Beauvoir. Vous avez, comme je viens de le dire, étudié le courrier reçu par Beauvoir après la publication du deuxième sexe. Votre livre à ce sujet a été publié chez Flammarion en 2024. Bonjour Geneviève Fraisse.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite du CNRS. Vous avez publié de nombreux livres, et en particulier sur les théories féministes. Ils sont indiqués dans le détail sur notre site. J'ajoute que vous avez aussi publié chez Actes Sud en 2008 un ouvrage intitulé « Le privilège Simone de Beauvoir », ouvrage qui a été réédité en folio Gallimard en 2018. Alors pour commencer notre conversation, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview conjointe de Sartre et de Beauvoir en 1970, c'était sur Radio-Canada.
Pour ce qui est de la question du rapport de la femme et de l'homme, je suis absolument d'accord avec Simone de Beauvoir. Pour ce qui est de l'organisation sans les hommes, je me suis souvent demandé si c'était nécessaire ou non. Je ne peux pas répondre actuellement, puisque je vois bien que pour les femmes c'est nécessaire actuellement, et je me demande si c'est la vraie forme de lutte, c'est-à-dire si des formes qui liraient des hommes qui pensent comme elles à elles ne pourraient pas avoir aussi une importance.
Mais les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes.
C'est ce que vous me répétez tout.
Oui, c'est ça.
Vous voudriez dire que vous n'avez pas confiance en moi sur ce point.
Et même vous qui êtes théoriquement, idéologiquement, tout à fait partisan de l'émancipation des femmes et tout ça, eh bien, vous ne partagez malgré tout pas ce qu'elles appellent, que j'appellerai avec elles, le vécu des femmes. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Et très souvent, par exemple, Sylvie, qui est très proche aussi de l'UFLM et moi, nous vous attaquons là-dessus parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas sentir.
Les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes, dit ici Simone de Beauvoir. Geneviève Fraisse, vous n'ignorez pas que cette idée de la différence, pas d'origine naturelle, en tout cas pas pour Simone, mais culturelle, et après tout, sait-on vraiment la raison ultime de la différence? En tout cas, cette différence a donné lieu aussi à un courant féministe qui s'appelle le différentialisme. Et certaines beauvoiriennes n'ont pas été d'accord. Il y a eu notamment un débat très vif. Notre génération, les gens d'aujourd'hui ne le savent pas forcément, les jeunes. Au moment de la loi sur la parité, vous étiez déléguée interministérielle aux droits des femmes en 1997. Et on a vu un débat, beaucoup de féministes, se réclamant de Beauvoir, n'étaient pas pour la loi sur la parité. Vous vous souvenez ?
Alors moi, je suis obligée de me déplacer par rapport à cette question, puisque j'ai précisément donc pas travaillé sur les théories féministes, mais sur la pensée féministe, c'est-à-dire le féminisme, ça pense, et ça pense comment. Donc pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut être différent. C'était le délai débat qu'il y avait dans la presse entre est-ce que ça changera quelque chose si les femmes font de la politique ou pas. C'est bien rigolo de voir 25 ans après ce que ça dit.
Mais qu'est-ce ça, c'est pas notre... Qu'est-ce que ça dit?
Ce que ça dit, c'est la phrase que j'avais inversée de la formule kantienne, que c'était vrai en pratique et faux en théorie, la parité.
Donc c'était faux en théorie. C'était, ici, on est dans une émission
théorique. C'était vrai en pratique. Oui. Et c'était, je m'étais fait mal voir, mais c'était que j'étais donc ni d'un côté ni de l'autre, c'était oui. Pas ça mon sujet. C'est comment ça pense, un moment d'histoire, comment il pense. Et puisque vous me ramenez à cette période où Simone de Beauvoir n'est pas très existante, hein, les années 2000.
Absolument.
C'est un des moments, moi je me suis fait engueuler par un prof de la Sorbonne qui m'avait invité dans son séminaire, et qui m'a dit, on ne prononce pas le mot de Simone de Beauvoir dans cette enceinte.
C'est
on
vrai.
Était rue Victor Cousin.
À ce point ?
Oui, et il faut savoir, puisque vous commencez comme ça, mais j'aimerais qu'on revienne au
ne
scandale.
Ne vous en faites
si
pas,
vous
on
bien.
Va parler de tout, ça.
De tout ça.
Mais je trouvais
mais juste
quand même
un mot.
Que
oui, je comprends que vous...
cette archive était très intéressante.
Alors juste un mot, sachez quand même, puisqu'il vient de disparaître, c'est d'actualité, que Jean-Louis Debré, qui écrit ce livre, « Ces femmes qui réveillèrent la France », d'Olympe de Gouges à Simone Veil, Veil avec un V.
Eh bien
il n'y a pas Simone de Beauvoir. Alors moi, pour rire, j'ai toujours dit, ici même, dans ces studios sans doute, bah oui, c'est parce qu'elle a réveillé le monde. Donc, j'ai essayé de tourner ça. Mais évidemment, c'est extraordinaire, il a supprimé. Alors qu'on a des féministes, on a Julie Daubier, on a des féministes du 20e, Marguerite Durand, etc. Mm-hmm. Bertine Auclair, si je ne dis pas de bêtises, mais il n'y a ni Simone Veil, la philosophe, ni, et ça on y reviendra sans doute, c'est sur la question de la pensée, justement, qui moi m'intéresse, plus que de la différence
oui,
ou
mais
pas.
Oui, on part à tout ça.
Oui, oui, je sais, je m'inquiète pas, vous en faites pas. Pardon. Et donc, voilà, c'est quand j'ai ouvert ce livre, c'était il y a une dizaine d'années ici même, c'était, il n'y avait pas Simone de Beauvoir.
Vous lui avez dit à Monsieur Debré?
Non.
Non. Non mais quand même, pardon,
non, mais parce
vous avez une expérience politique considérable, vous êtes une philosophe et je vous ai présentée comme telle au début, vous êtes aussi une femme engagée, vous avez eu des postes à responsabilité.
Et c'est
effectivement,
pas le plus important.
Mais c'est quand même, Simone de Beauvoir appréciait les femmes qui étaient capables de faire des choix et de s'engager.
J'ai pas fait un choix, j'ai été choisie. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui m'a convoquée.
Il paraît que c'est votre fille qui vous a obligée à accepter, vous l'avez dit quelque part.
Ben, parce qu'on m'a sollicité.
Elle avait 17 ans.
C'est vrai. On en rit encore avec elle. Mais absolument, ce ne sont pas des choix ni une finalité personnelle. C'est vraiment l'histoire qui, parce que j'ai écrit Muse de la raison, que j'ai donc écrit Sur l'essence de la démocratie, etc. Et que j'interviens dans des discussions qu'on vient me chercher. Donc, je suis convoquée. Mais je n'ai ni désiré, ni choisi.
Je voudrais pas du tout vous mettre mal à l'aise.
Non, mais c'est important par rapport à la question de l'engagement, même pas à Beauvoir. C'est quand l'histoire vous convoque.
Oui.
C'est pas la même chose que de décider de s'engager dans l'histoire.
Entendu. J'insiste un tout petit peu, mais je ne veux pas vous mettre mal à l'aise. La loi sur la parité, elle a été précédée par des débats, rappelez-vous, sur la loi, dans l'idée d'une loi sur les quotas. On a voulu faire des quotas de femmes, et beaucoup de féministes ont dit, attendez, si on fait un quota, on le fait à 50%. C'est ce qui a été fait. Cette discussion, elle a opposé pas mal de femmes. Et là, à l'époque, on disait que c'était un truc de féministes différentialistes. Et certaines beauvoiriennes, je pense par exemple à Elisabeth Badinter, étaient violemment contre. Elle trouvait que... Je me souviens, moi j'étais une jeune fille qui se posait beaucoup de questions. J'étais pas très âgée, mais assez quand même pour réfléchir aux engagements et me poser des problèmes, c'était un vrai problème. Je me souviens d'une émission, c'était dans l'heure de vérité, dans ces années-là, où Elisabeth Badinter a dit « Je ne voudrais pas être élue pour mon utérus ».
Ah oui.
Vous vous souvenez de ça ?
Sûrement. Elle avait en face Sylviane Agacinski qui défendait le fait que le politique se fondant sur la différence, ça ferait peut-être des effets dans l'histoire. Pour ma part, le problème, c'est que je me situe ailleurs, puisque pour moi, la différence des sexes, c'est une catégorie vide. C'est pas une catégorie pleine.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'elle va être investi différemment et dans des contextes différents, suivant, si vous voulez, la différence des sexes en 1800, vous allez superposer homme-femme et masculin-féminin. En 1900, vous allez les dissocier, les catégories et les êtres sexués. Et puis en 2000, vous allez décider qu'il y a un multiple et qu'il n'y a plus seulement deux catégories et que la binarité est problématique. Donc, si vous voulez, c'est une catégorie vide. Donc, c'est une catégorie qui fonctionne dans la pensée, mais moi, ça m'a jamais intéressé, donc j'ai beaucoup de mal à vous répondre. Parce que c'est pas ça la question pour moi. Je peux travailler, je peux lire des textes comme Lucie Rigaraille, faut relire parce que ce qu'elle a écrit dans les 70, moi j'étais pas d'accord évidemment, mais en même temps c'est bien intéressant de les lire ou de les relire. Et puis d'autres textes, d'autres positions féministes, bien sûr.
La loi sur la parité, avez-vous dit à l'instant, était fausse sur le plan théorique.
Non, mais pas juste la loi, le débat, la parité elle-même, pardon.
Mais finalement, c'est les enjeux pratiques. Ce sont les enjeux pratiques qui ont plus de faire.
Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que il faut aller. Moi, je pense qu'il faut aller au. Et de ce point de vue-là, Simone de Beauvoir est intéressante pour ma part, parce que c'est elle qui pose la question du comment penser. Et c'est ça qui m'intéresse depuis le début, peut-être parce que j'ai fait des études de philosophie, et que c'est ça qui compte. C'est comment penser, c'est ça qui crée deuxième sexe, et c'est ça, à mon avis, qui va lui être reproché encore plus que le débat sur érotisme, sexualité, que François Mauriac va nous... Vous voulez quand même la citation du...
De
l'enquête.
Je vais interviewer de la même façon Marine Rouge, ne vous inquiétez pas sur ces difficultés lorsque se présente un problème comme celui de, par exemple, faut-il la parité, etc. Les difficultés théoriques des féministes par rapport à cela. Mais allez-y, citez-nous Mauriac.
6 juin 1949, Le Figaro lance une enquête. Question de François Mauriac à la jeunesse intellectuelle. Croyez-vous que le recours systématique dans les lettres aux forces instinctives et à la démence et l'exploitation de l'érotisme qui l'a favorisé constitue un danger pour l'individu, pour la nation, pour la littérature elle-même et que certains hommes, certaines doctrines emportent la responsabilité?
C'est le Figaro, mais qui est l'auteur, vous savez?
C'est François Mauriac.
Ah, c'est Mauriac à nouveau, on est bien d'accord.
C'est la question que pose François Mauriac. On aura, dans un livre, il faut rendre hommage à Ingrid Galster, chercheuse allemande désormais disparue, qui va publier l'ensemble des réponses et l'ensemble des critiques qu'il y aura sur ce livre entre 49 et 50. C'est-à-dire plusieurs dizaines, pratiquement 70 ou plus, réponse de tous nos futurs intellectuels, puis de quelques femmes aussi, futurs intellectuels hommes, de Vidal-Naquet à Alas Vergnas, de Alain Gouillet à Nadeau, etc. Mais aussi Colette Audry, pas seulement Françoise Daubonne, mais Colette Audry, Dominique de Santy. Voilà ce que vont devenir
merci
ces femmes
de
ensuite.
Rappeler.
C'est intéressant.
Le format de la radio fait que je n'ai pas pu faire une liste très très longue, mais merci de le faire à ma place. Marine Rouche, on vient d'avoir un échange avec Geneviève Frey sur les difficultés par rapport à une question comme celle de la parité. À mon avis, il y aura d'autres questions, on va les évoquer ici, où les féministes n'avancent pas toujours d'un seul bloc. Quelle est votre analyse?
Alors, je m'exprime en tant qu'historienne et non pas philosophe. Hein, je suis historienne des féminismes et des idées. La question de la parité, je ne l'ai pas étudiée. En revanche, ce qui m'intéresse ce qui me parle dans ce que vous venez de dire, c'est ce que vous dites, en fait, la difficile réconciliation entre la pratique et la théorie. Donc, vous avez dit l'importance, en fait, de mettre en place des conditions pratiques et matérielles pour effectivement arriver à faire passer des lois qui mettent en place les conditions nécessaires pour que les femmes arrivent à s'insérer dans des milieux historiquement ou majoritairement à domination masculine, c'est vrai. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ces questions-là ne règlent pas les débats théorique et les ambiguïtés peut créer ça. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans la philosophie de Simone de Beauvoir, c'est cette attention justement à l'ambiguïté. C'est une notion importante dans la philosophie beauvoirienne. Et effectivement, à chaque, on le voit notamment avec la loi sur le consentement. Pardon, je déplace un peu, mais enfin les débats sur le consentement. Effectivement, les camps féministes ne s'accordent pas ou sont en débat. Et je trouve que c'est intéressant.
Alors,
de rester
sur ce point, il faut quand même aider un peu les auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes aujourd'hui. La notion de consentement, on a parfois l'impression, quand on ne connaît pas de près ces débats, qu'elle fait l'unanimité, qu'il faut la renforcer, voire l'introduire, si on considère qu'elle n'est pas encore dans la loi française. Il y a des féministes importantes internationalement qui trouvent que ce n'est pas une bonne idée, en particulier Katharina McKinnon, qui pense que si on établit une procédure quelque peu formelle, d'ailleurs, entre les individus, pour qu'il soit bien clair qu'un acte est sexuel et consenti, si tout le monde signe, à la fin, s'il se passe quelque chose d'insoutenable dans la relation sexuelle, eh bien, les femmes se feront avoir, elles auront signé, elles auront manifesté, elles auront dit le consentement. Donc, McKinnon pense que c'est un piège pour les femmes.
Bien sûr, et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres. Je pense à Manon Garcia, notamment, et sur le consentement, Geneviève Fraisse est aussi spécialiste. Mais effectivement, c'est-à-dire que au sein du d'ailleurs, on parle de féminisme au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a différentes approches, différentes théories qui font. Qui sont en tension, en fait. Et c'est à partir de ces tensions, de ces frictions, que le débat autour de la théorisation du féminisme se poursuit, se construit. C'est un débat réflexif, c'est un débat passionnant, et je trouve que c'est intéressant aussi d'analyser la pensée de pouvoir au prisme là, de ces frictions et tensions, pour essayer de comprendre ce que vous disiez dans l'introduction de l'émission, que Simone de Beauvoir est mobilisée parfois par des courants, comme vous avez cité l'écoféminisme. On n'arrive pas très bien à réconcilier la pensée de Beauvoir avec certains courants, et pourtant elle est mobilisée. Donc quelles sont les frictions qui sont créées, et à
là
partir
aussi,
de ces frictions-là, qu'est-ce qu'on fait?
Il faudrait quand même préciser, encore une fois, pour les personnes qui ne sont pas spécialistes de ces débats, l'écoféminisme a tout un discours sur la nature.
Mm-hmm.
Il est vrai que Françoise d'Aubonne, qui l'incarne magistralement, ce mouvement, était très proche de Beauvoir. Et il est vrai qu'à un certain... On peut dire que la domination de la femme, la domination de la nature, peut-être que quelque chose chez Beauvoir pouvait permettre de l'appréhender. Mais franchement, se réclamer de la nature, Beauvoir n'aurait pas supporté. À ce point, je veux dire, au point où le fait l'écoféministe. C'est quand même difficile de réconcilier, malgré les amitiés de d'Aubonne et de Beauvoir, l'écoféminisme intégralement avec la pensée de Beauvoir. Vous êtes d'accord?
Alors, oui et non.
Oui, mais, merci. J'adore quand ça se complique, moi, vous savez.
Pardon, mais oui et non, parce que finalement, l'écoféminisme n'est pas un essentialisme. C'est-à-dire, c'est effectivement, Françoise d'Aubonne, bon, si je repars du départ, excusez-moi. Françoise d'Aubonne est une grande amie de Simone de Beauvoir. Elle est une des premières à avoir pris au sérieux le deuxième sexe comme texte philosophique. C'est-à-dire qu'elle écrit un livre qui est une réponse au deuxième sexe, qui le prend vraiment au sérieux et qui le prolonge 2 ans après sa publication. Ce texte, c'est Le complexe de Diane. Bon, Françoise d'Aubonne, effectivement, au cours des années 60 fait son chemin féministe, et elle est une des représentantes de l'écoféminisme en France, qui rapproche le combat féministe et le combat écologique. Le point commun entre les deux, c'est que c'est vraiment cette en miroir, de mettre en miroir la domination des femmes et de la nature par les hommes. Et de fait, c'est une question qui part de la même façon que Beauvoir sur l'infériorité que l'on attribue au féminin, et donc selon cette distinction masculin-féminin qui fait écho à la distinction de nature-culture que travaille aussi Simone de Beauvoir. Donc l'objectif, c'est vraiment de retravailler cette distinction-là, de ne pas la prendre pour argent comptant. C'est vraiment la méthode philosophique de Simone de Beauvoir, finalement, de défaire ce qui apparaît comme du sens commun, finalement. Du coup, je ne trouve pas il y a très peu de recherches sur Simone de Beauvoir et l'écoféminisme. Je vous avoue qu'en préparant l'émission, parce que je savais que vous aviez évoqué cette question écoféministe, j'ai trouvé qu'un seul article en étude beauvoirienne sur l'écoféminisme et Simone de Beauvoir. Pour autant, je crois qu'il peut y avoir des choses à réconcilier, à emprunter à ces deux pensées, notamment parce que depuis quelques décennies, cette lutte écoféministe, elle rejoint aussi les luttes anticoloniales. Qui rejoint aussi les combats de Simone de Beauvoir au tournant des années 50.
C'est un morceau important de l'émission que nous sommes en train de faire et qui va arriver. La question du lien entre la lutte d'émancipation des femmes et d'autres luttes d'émancipation mmh. ou incitant à une prise de conscience majeure, en particulier sur la violence coloniale et ses séquelles. Alors j'aurais quand même, pardon, j'ai l'habitude d'insister un peu, quand je crois qu'il y a un point conceptuel important. Carole Gilligan est une importante féministe américaine qui a défendu l'idée du care. Elle en est véritablement la fondatrice. En français, la sollicitude ou le soin, le fait d'avoir des qualités à la fois émotionnelles et intellectuelles qui font qu'on prend davantage soin d'autrui. Pour diverses raisons dans lesquelles nous ne rentrerons pas en profondeur, Gilligan a dit que le care était plutôt une qualité féminine. À cause de la nature, à cause de la culture, parce qu'on a élevé les femmes dans l'idée qu'il faut s'occuper d'autrui. Bon, ça, c'est un débat très compliqué. On n'est même pas obligé de le trancher. Il n'empêche qu'elle a suggéré que c'était des valeurs féminines qu'il fallait davantage introduire dans nos sociétés. Ça, c'est du différentialisme. Est-il vrai que, d'un certain point de vue beauvoirien, c'est un peu problématique si on considère que Beauvoir est plus universaliste que ça ? Marine Rouge.
Alors, Beauvoir, elle tranche ou pas à la question, c'est-à-dire que il faut revenir à sa proposition phénoménologique. Finalement, son féminisme, c'est un féminisme phénoménologique qui est important et qui dit, alors oui, si on reprend par exemple cette célèbre phrase « On ne naît pas femme, on le devient », elle a été interprétée comme le signe d'une profonde socialisation dans une dimension constructiviste. C'est ça, mais ce n'est pas que ça, parce que il y a aussi chez Beauvoir, Beauvoir dit « Oui, il y a cette socialisation qui est importante, qui est profonde, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des corps desquels on ne peut pas s'échapper, c'est ce qu'elle appelle la facticité. » Bon, et alors la proposition phénoménologique de Beauvoir, c'est d'explorer cette relation entre soi, son corps et le monde, cette dialectique qu'il y a. Ce qui fait que le féminisme de Beauvoir, il évacue pas totalement cette question des corps des femmes.
Et il y a aussi autre chose. Il s'agit plutôt de psychologie que de corps. Il s'agit de l'idée d'une psychologie féminine. Et comme dans l'archive que nous avons entendue, Beauvoir dit à Sartre, grosso modo, vous avez beau être d'accord avec moi qu'il oui. faut mieux traiter les femmes, il y a des choses que vous ne comprenez pas parce que ça ne relèvera jamais de votre vécu. Je cite encore Beauvoir, les hommes, nous l'avons entendu, les hommes ne pensent jamais tout à fait comme les femmes. Est-ce qu'il y a un pont possible entre Beauvoir et Gilligan ou non?
Et là, je pense que Beauvoir fait vraiment référence, quand elle parle de vécu, à l'expérience vécue et à cette façon dont nous sommes des êtres incarnés, des sujets incarnés.
Geneviève Fraisse, je vous pose la même question. Le différentialisme, par exemple,
Je vous ai proposé de ne pas parler de différentialisme.
Je sais, mais je suis désolée, c'est un mot qui existe dans l'histoire des féminismes.
Oui, mais on peut avoir...
Donc vous êtes contre, j'ai bien compris.
Non, mais la question, c'est pas d'être contre, c'est d'être ailleurs. Et pour reprendre Beauvoir, reprenons. Quand elle fait l'exergue à Poulain de la Barre, les hommes sont jugés partis. C'est pas une question de savoir s'ils ont telle nature ou telle autre. Ils sont jugés partis quand ils parlent des femmes. Et puis, bien sûr, il s'agit, quand elle veut continuer, de dire oui, les hommes sont jugés partis, mais les femmes aussi. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la position épistémologique. Et même par rapport au débat sur le consentement, sur lequel évidemment je pourrais aussi intervenir, mais je pense que ça nous éloigne du sujet, Simone de Beauvoir, c'est que elle cherche à voir à quelle place elle peut se mettre. Et d'ailleurs, elle commence par dire que si elle écrit Le deuxième sexe, c'est parce qu'elle voulait écrire ses mémoires, etc. Et que Sartre, entre autres, et d'autres, lui ont dit « Mais vous êtes qui ?» Donc, à ce moment-là, c'est comme un discours de la méthode, comme j'ai l'habitude de le dire, l'introduction du deuxième sexe, c'est-à-dire qui suis-je pour parler de cela ? Je suis une privilégiée, d'où le titre.
On est bien. Le sujet suivant.
Mais ça va avec le différentialisme, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle se pose comme un sujet qui pense. Et c'est ça qui m'a profondément intéressée. Et quand on relit le travail qu'a fait Ingrid Gaster, on voit que ce qui va les gêner, finalement, parce qu'il y en a qui vont être contre, c'est la pestilence, etc., la pornographie dans la philosophie, il y en a qui se disent « Oh, c'est un gros travail, mais ça va nulle part », et puis il y en a qui entendent « Bah oui, il s'agit de sexualité », je vous citerai pas les noms, il y en a trop, mais c'est dommage. Mais donc, elle est sur la position de « Qui suis-je pour penser ce que j'ai envie de penser ?» Et là, elle a vraiment regardé ce qu'elle dit ensuite Donc les hommes sont jugés partis, les femmes aussi. Où trouver un ange ? En vérité, un ange serait mal qualifié pour parler. Il ignorerait tout, les données du problème. Quant à l'hermaphrodite, c'est un cas bien singulier. Il n'est pas à la fois homme et femme, mais plutôt ni homme ni femme. Bon, ça, c'est sa position qu'on pourrait réviser sur la dernière phrase. Pas un morceau de phrase.
On va y venir aussi, mais quand même, je comprends pas bien la phrase « jugé parti ».
« Jugé parti », ça veut dire que quand Poulain de la Barre fait ce célèbre texte en 1673, disciple cartésien, en tout cas cartésien, on va dire, pour dire vite, il dit « j'écris ». Sur les femmes, sur l'égalité des sexes, mais je sais bien que je suis pris. Stuart Mill dira.
Ah oui, d'accord.
Même chose, hein, dans son l'asservissement des femmes au début. Il se posera la question de savoir.
Oui, bien sûr, on n'écrit pas depuis une position.
Donc moi, c'est pas la question du nature-culture. C'est la question de quelle est ma place épistémologique. Et c'est pour ça que je peux pas vous répondre même si on prenait. Par exemple, si on prend la question sur le consentement, puisque vous en parliez, entre la position d'introduire le consentement ou d'être contre, moi, je dis qu'il faut tenir les deux choses ensemble. C'est-à-dire à la fois ce qu'elle propose, c'est-à-dire l'inversion de la charge de la preuve. Ça, c'est mon passage à l'Europe qui me l'a appris. C'est une directive de 97. Inverser la charge de la preuve,
c'est à l'agresseur. Qui doit prouver si c'est un monsieur, voilà. Parce que ça pourra un jour être une femme aussi qui n'a pas agressé.
Et ça vient de l'Europe, puisque c'est s'il y a discrimination professionnelle, c'est à l'entreprise et au patron de prouver qu'il n'y a pas de discrimination et non pas à la personne discriminée de prouver la discrimination. Ça s'appelle l'inversion de la charge de la preuve, c'est formidable. Mais vous voyez, j'ai pas besoin ni de la différence ni de nature-culture. Et en revanche, ne pas donner la possibilité de dire quelque chose à la victime me paraît contre-productif par rapport à la pensée de l'émancipation. C'est-à-dire qu'on ne lui donnera pas la parole. Alors, des magistrats m'ont dit, à juste titre, on l'a entendu, elle a déposé une fois, deux fois, trois fois. Mais ne pas lui donner on peut lui donner la parole et proposer l'inversion de la charge de la preuve. Sinon, on contribue à penser uniquement la domination. Et moi, je veux penser aussi l'émancipation, même peut-être surtout l'émancipation.
Et quand même, l'idée du care, des valeurs de sollicitude et de soin, considérée par certaines féministes comme spécifiquement féminine,
mais ça peut pas
être vous choque ?
Ben ça peut pas être hors sol. Vous savez, mon premier livre en 79, il est sur le service domestique. Quel rapport entre service et démocratie ? Le care fait partie de la question du service, et la vraie question que la démocratie se pose, c'est celle de qui sert qui. Et le care va s'introduire nécessairement aussi dans cette question-là. Donc pour moi, c'est pas les qualités féminines, c'est la question du fonctionnement qui compte. Là encore, si vous voulez, le ça pense. Donc, c'est pas tellement si je dois être pour ou contre la nature, la culture. Enfin, de toute façon, c'est un schéma périmé. Je l'ai écrit.
Non, mais juste d'accord ou non avec Gilligan, c'est ça ma question. Vous lisez le féminisme contemporain, mais ça vous intéresse.
Mon problème, c'est pas d'être pour ou contre. Mon problème, c'est de trouver les bonnes questions. Le féminisme, ça pense. J'aurais consacré tous mes travaux à ça. Donc, je cherche pas à dire si je suis pour ou contre. Et précisément, je suis plutôt pour avoir les deux positions, c'est-à-dire oui, l'inversion de la charge de la preuve. Moi, elle m'a impressionnée quand j'ai lors de mon passage à l'Europe, parce que ça me paraissait révolutionnaire au niveau du professionnel, mais on ne peut pas enlever la parole. Au moment où on prétend libérer la parole, on va lui enlever la parole ? Non.
L'héritage de Beauvoir dans les débats féministes, c'est notre question ce matin, dans le cadre de notre série sur la pensée de Simone de Beauvoir. Cette semaine, je suis en compagnie de Marine Rouche et de Geneviève Fraisse. Vous avez commencé à évoquer un point qui est souvent soulevé, à l'intérieur même du féminisme, certaines femmes parleraient de manière féministe, mais en fait de manière assez privilégiée, ayant une place privilégiée, ce qui pourrait peut-être les rendre aveugles à certains types de domination différents qui touchent d'autres femmes qu'elles. C'est un sujet très important avec beaucoup de ramifications théoriques. Je vous propose d'introduire ce problème par le texte de Simone de Beauvoir, extrait de La force des choses, c'est dans l'épilogue en 1963. Écoutez.
Économiquement, je suis une privilégiée. Depuis 1954, mes livres me rapportent beaucoup d'argent. Je me suis acheté une auto en 1952 et en 1955 un appartement. Je sais que je suis une profiteuse, et d'abord par la culture que j'ai reçue et les possibilités qu'elle m'a fournies. Je n'exploite directement personne, mais les gens qui achètent mes livres sont tous les bénéficiaires d'une économie fondée sur l'exploitation. Je suis complice des privilégiés et compromise par eux. C'est pourquoi j'ai vécu la guerre d'Algérie comme un drame personnel. Quand on habite un monde injuste, inutile d'espérer, par aucun procédé, se purifier de l'injustice. Ce qu'il faudrait, c'est changer le monde et je n'en ai pas le pouvoir. Souffrir de ces contradictions, ça ne sert à rien. Les oublier, c'est se mentir. Sur ce point aussi, faute de solution, je me laisse aller à mes humeurs. Mais la conséquence de mon attitude, c'est un assez grand isolement. Ma condition objective me coupe du prolétariat et la manière dont je la vis subjectivement m'oppose à la bourgeoisie. Cette relative retraite me convient, car je suis toujours à court de temps. Mais elle me prive d'une certaine chaleur, que j'ai retrouvée avec tant de joie ces dernières années dans les manifestations. Et, ce qui est plus grave pour moi, elle limite mon expérience.
On va revenir sur cet aveu, cette reconnaissance de Beauvoir qu'elle est privilégiée, y compris sur l'isolement dont elle parle. Mais pour prolonger ce problème, écoutons maintenant un texte de Bell Hooks, féministe américaine, à mains égards située dans la mouvance de l'afroféminisme, incarnée aussi par Angela Davis, même si Bell Hooks a son œuvre propre, très vive. Écoutez ce qu'elle dit dans « De la marge au centre, théorie féminisme », un livre paru originellement en 1984.
Dans une grande partie de la littérature féministe, les postures à l'égard du travail reflètent des préjugés de classe bourgeoise. Les femmes de classe moyenne, qui ont dessiné les contours de la pensée féministe, sont parties du principe que le problème le plus urgent pour les femmes était le besoin de sortir de la maison et d'aller travailler, de ne plus être juste des femmes au foyer. Les militantes féministes ont décrété que le travail en dehors du foyer était la clé de l'émancipation. Elles soutenaient que le travail permettrait aux femmes de briser les chaînes de leur dépendance économique aux hommes, ce qui leur permettrait en retour de résister à la domination sexiste. Quand ces femmes parlaient de travail, elles imaginaient des carrières bien payées. Elles ne pensaient pas aux emplois mal payés ou à ce qu'on appelle les sales boulots. Elles étaient tellement aveuglées par leur propre expérience qu'elles ont ignoré le fait que l'immense majorité des femmes travaillaient déjà à l'extérieur du foyer et occupaient des emplois qui ne les affranchissaient pas de leur dépendance aux hommes, ni ne leur permettaient d'être économiquement indépendantes. Les femmes pauvres et de classe ouvrière savaient, de par leur expérience de travailleuse, que le travail n'était ni émancipateur, ni épanouissant, qu'il s'agissait surtout d'une forme d'exploitation et de déshumanisation.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Marine Rouche, Beauvoir reconnaît son privilège, étonnant texte. Bell Hooks, de son côté, rappelle qu'il y a eu, alors je ne sais pas si elle vise Beauvoir, parce que vous allez me le dire, il y a eu des femmes qui parlaient de la question féminine un peu justement du point de vue d'une position privilégiée. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce débat-là ?
Oui, alors moi je trouve que c'est très très beau de mettre ces deux textes en miroir. D'abord l'épilogue de Simone de Beauvoir, je le trouve très beau, très juste. C'est un de mes textes préférés, je le trouve très juste de réflexivité et d'honnêteté. Alors ce qu'elle dit et que je trouve intéressant, c'est à la toute fin de l'extrait finalement, elle dit elle limite mon expérience. Comment il faut comprendre ça? Elle écrit ce texte dans le contexte quand même de la guerre d'Algérie, dans un contexte aussi où elle reçoit des centaines et des centaines de lettres de lecteurs et de lectrices, mais majoritairement de lectrices, qui lui confient leurs expériences. Ce sont des expériences qu'elle n'a jamais vécues. Il y a des lettres de violence conjugale, des témoignages sur effectivement le travail, sur la vie dans des milieux sociaux défavorisés, des lettres de femmes antillaises, par exemple, ou de femmes issues de territoires coloniaux ou postcoloniaux. Elle se rend compte que toutes ces expériences-là que font ces femmes, ce n'est pas la sienne. Et donc, elle fait tout une réflexion sur ses privilèges. Elle le dit, je suis économiquement une privilégiée. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle arrive à montrer l'ambiguïté de cette position-là, puisque il faut le redire, c'est-à-dire qu'elle est, dans les années 50 et 60, l'une des intellectuelles de gauche les plus célèbres. C'est-à-dire qu'on parle d'elle autant dans... On la lit autant dans des revues philosophiques, littéraires, que dans des journaux, je pense à la presse plus populaire et de célébrités, souvent. Donc elle est vraiment assez suivie. Donc, elle, pour avoir cette visibilité-là, elle bénéficie hein, de ces logiques hégémoniques, de la culture de masse. Et en retour, effectivement, il y a une sorte de consolidation de son privilège. Donc, comment elle réagit à ça ? Eh bien, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que pour avoir accès aux expériences dont elle n'a aucune connaissance elle-même dans son corps et dans sa vie, c'est que elle va, alors elle le fait déjà dans le deuxième sexe, elle a recours à des témoignages en première personne, donc elle va recueillir des témoignages autour d'elle, elle va travailler à partir de sources en première personne, des journaux intimes, des correspondances, et puis à partir du moment où elle commence à recevoir des lettres, ben sa correspondance devient une sorte de laboratoire d'observation phénoménologique qui va l'inspirer et qui va former, alimenter son devenir féministe, pour reprendre l'expression du devenir, parce que vous l'avez déjà rappelé dans les émissions précédentes, Simone de Beauvoir devient féministe, c'est-à-dire qu'il prend des couleurs différentes à chaque période. Donc ça, je trouve très intéressant, c'est-à-dire qu'elle reconnaît ça et elle va tenter de trouver des solutions pour avoir accès et forger son féminisme. Sa correspondance, et j'ajoute aussi, ensuite je commenterai Bell Hooks, mais sa correspondance, c'est aussi un terrain d'expérimentation, puisque elle cherche à entrer en communication avec ces personnes-là, c'est-à-dire que non seulement elle reçoit les lettres, mais elle y répond, elle entretient des correspondances suivies, parfois sur 20-25 ans, elle rencontre ces femmes-là, donc elle participe pleinement à ça, et puis c'est aussi une sorte de réponse au problème de l'altérité dont vous avez déjà parlé dans les émissions précédentes également.
Merci d'avoir écouté.
Et je trouve que la correspondance, son rapport au lectorat, répond vraiment à ça, ou apporte en fait une complexité à ça, puisqu'elle tente de mettre en action sa philosophie.
Donc elle n'est pas aussi isolée qu'elle le dit.
Elle n'est pas aussi isolée dans qu'elle le dit, tout à fait.
Et alors Bell Hooks,
ce qui est intéressant, parce que c'est une réception, une appropriation, bon certes, de Simone de Beauvoir, mais Simone de Beauvoir qui devient petit à petit, progressivement, et surtout à partir des années 70, une figure de ce que des féministes lesbiennes et racisées vont accusé, c'est-à-dire ce féminisme blanc, hégémonique, hétérosexuel, voilà.
Qu'elles accusent d'une forme de cécité.
D'une sorte de cécité, de ne pas réussir à prendre en compte leurs expériences spécifiques. Ce texte-là, écrit en 84, il est intéressant et je trouve qu'il fait écho aussi. En fait, il est écrit 3 ou 4 ans après un autre texte, cette fois-ci de Audre Lorde, qui est aussi une poétesse théoricienne afroféministe, qui, lors du colloque consacré aux 30 ans du deuxième sexe en 1979, c'est un colloque qui se tient à New York, qui réunit des féministes à l'international, donc il y a des féministes également françaises, du MLF français, alors en fait parisien plutôt, qui se retrouvent et qui parlent, qui font une sorte d'état des lieux des théories féministes en cours. Le deuxième sexe, c'est un prétexte. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre vraiment la place occupée dans cette généalogie féministe, dans cette histoire féministe, par le deuxième sexe et par la figure de Simone de Beauvoir. Ce que je voulais dire, c'est que Audre Lorde, au moment de ce colloque, et elle l'écrit dans Sister Outsider, hein, dans son article « On ne détruit pas les outils du maître, la maison du maître avec les outils du maître », ce qu'elle dit, c'est que, d'abord, elle s'insurge, qu'elle ait été invitée au dernier moment parce qu'il fallait absolument quelqu'un qui pouvait parler de l'expérience lesbienne et du racisme, et elle s'insurge aussi qu'il n'y ait que deux personnes racisées. Et ce qu'elle dit, effectivement, c'est ça. Et à un moment, elle dit aux autres, mais comment vous gérez le fait que vous êtes toutes ici réunies à parler de théorie féministe et que pendant qu'on parle de ça, ce sont des femmes pauvres et des femmes de couleur qui gardent vos enfants et qui nettoient vos intérieurs. Donc, il y a une tension là. Il y a une tension qui vraiment permet de décentrer un petit peu hein, ce féminisme dit hégémonique. Voilà. Et puis tout ça prend place dans des années où se met en place aussi une institutionnalisation internationale du féminisme. 1975, c'est, je cite, l'année internationale de la femme. C'est l'ONU qui choisit ça. Et donc, il y a énormément de conférences qui se mettent en place. Et naît ce mythe-là de sororité globale qui va vraiment aplanir un petit peu les différences et reproduire des logiques hégémoniques qui font que dans ces espaces-là, effectivement, on va retrouver des femmes femmes, des féministes qui sont privilégiées à ces égards-là. Donc il y a ces tensions qui sont difficiles à réconcilier, mais encore une fois, je pense qu'elles sont intéressantes à explorer.
Comment, Geneviève Fraisse, vous lisez-vous ces tensions? Est-ce que vous pensez que...
Elles sont là depuis toujours. Ça fait 2 siècles qu'elles sont là. Sur la question de savoir, donc c'est pas pour moi une histoire nouvelle,
oui.
Parce que au fond, est-ce qu'il faut une ligne juste? Ça pourrait être une question que je vais laisser au placard. C'est la question de la ligne juste. La deuxième question qu'on connaît bien aussi, c'est faites la révolution avec nous et puis on s'occupera de vos petites affaires féministes au lendemain de la révolution. Ça, ma génération des années 70 l'a pratiquée, connue, subie. Puis nous avons poser cette question-là autrement. Et moi, dans mon parcours de 2 siècles qui nous précèdent, cette question-là est déjà posée, mais autrement. Elle le sera. Alors, sur le service domestique, même les congrès féministes des années 1900 se posent déjà la question, hein, de savoir ce qu'on fait. Est-ce qu'on pourra continuer à sonner sa domestique la nuit si on fait l'égalité des sexes, l'égalité et que toutes les femmes peuvent être égales? Mais soyons plus précis sur des choses importantes. Regardez, prenons quelqu'un dont on vient de fêter le bicentenaire de la naissance, Julie-Victoire Daubier, première bachelière en 1860, qui donc s'inscrit, puisqu'il n'est pas interdit de passer le baccalauréat, je m'inscris. Mais normalement, les femmes ne s'inscrivaient pas au baccalauréat. Mais l'intérêt, c'est pas seulement qu'elle passe le baccalauréat, qu'elle aura cette situation privilégiée. Faudra que je revienne sur le mot privilège, parce que comme je l'ai mis en titre,
mais bien sûr,
c'est parce qu'il ne signifie pas seulement le privilège social.
Allez-y, c'est très important.
Je finis sur Julie Daubier.
Je vous en prie.
Et elle écrit un livre qui s'appelle La femme pauvre. Et elle dit quels sont les moyens de subsistance pour les femmes. Et nous y voilà à Belloux. Moi, je peux le lire ça il y a 150 ans ou plus. Ouais. C'est-à-dire quels sont les moyens de subsistance pour les femmes. L'industrialisation a abîmé la vie des femmes au lieu de l'améliorer en l'individualisant et en la dessoudant du soutien familial. Résultat, quels sont les moyens de subsistance? Qu'est-ce que ça veut dire le mot subsistance qui est repris par l'écologie d'aujourd'hui beaucoup? Il est très intéressant ce mot-là. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir vivre? C'est-à-dire une minimum d'autonomie économique. Donc c'est pas seulement la question de sortir de sa cuisine. C'est la question, c'est comme quand je fais un coq à l'âne, Virginia Woolf dit à la fin, il nous faut une chambre à soi et 50 et je sais plus combien de milliers de livres, je sais plus, j'ai perdu le chiffre.
Ah, elle donne un chiffre.
Bien sûr. Et ça, oui. Alors je vais dire une bêtise. Donc, bon voilà, j'oublie toujours le nombre.
Il faut qu'on vérifie, c'est très intéressant.
Non, mais elle dit ça, c'est-à-dire qu'elle dit, il faut de l'argent. Alors elle a l'argent. Comme rente. Mmh. Mais ça veut dire, et moi je l'ai vécu comme, j'aurais jamais pu faire une vie entière sur la pensée féministe si j'avais pas été fonctionnaire. Et ça, c'est un débat que nous aurons aujourd'hui. Que restera-t-il de la fonction publique dans quelques années? Parce que, évidemment, ça ne suscitait pas l'enthousiasme nécessairement ce que je faisais au niveau de la commission CNRS. Donc, ça veut dire que j'avais la possibilité économique de pouvoir continuer. Donc, la question économique, c'est pas seulement de dire oui, elles vont exploiter. Oui, elle va être exploitée. Et c'est pas seulement Simone de Beauvoir ou les descendants de Simone de Beauvoir comme moi qui peuvent dire, loin de souffrir de ma féminité, j'ai plutôt cumulé à partir de 20 ans les avantages des deux sexes. Je fus encouragée à écrire le deuxième sexe précisément par cette situation privilégiée. Elle m'a permis de m'exprimer en toute sérénité. Donc, elle a conquis cette place qui lui est d'ailleurs contestée en 49 et 50, hein, dans la pornographie, dans la philosophie, ou bien pire encore, d'autres insultes. Et donc, elle a cette place-là. Ça ne veut pas dire qu'on va dire il y a de la sororité. Vous savez, la sororité, c'est bon pour la domination. C'est moins bon dès qu'on est dans l'espère de l'émancipation. Donc ça aussi, c'est une analyse qu'il faudrait faire. Eh bien, c'est plus facile de se dire sœur quand on est sœur en domination que sœur quand on est sœur en émancipation. J'en ai fait l'observation tout au long de mon existence. Donc la question, si vous voulez, n'est pas de proposer. La question est de trouver comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Si une femme peut sortir de chez elle, si elle a un emploi qui est effectivement des emplois dénoncés, bien évidemment, à juste titre, et elle est loin d'être la première. Mmh. C'est vraiment toute l'histoire du monde ouvrier qui est là-dedans aussi, et du féminisme. Oui, sauf que la question est de savoir par quels moyens on obtient, si ce n'est l'égalité, en tout cas une autonomie économique. Pourquoi les femmes sortent de chez elles, même pour prendre des jobs de nul? C'est précisément parce qu'il y a un problème d'économie qui se joue. Donc, il faut prendre tout ça, et dans ces contradictions, et c'est là qu'on arrive à la question de la contradiction. La question de la guerre d'Algérie, elle le dit bien, elle dit, voilà, c'est le seul fois où elle emploie le mot privilège.
Elle, vous dites Beauvoir.
Oui. Ouais. Alors, le mot privilège, il est utilisé par tous les existentialistes aussi. Hein. C'est très curieux, puisque c'est quand même un mot d'ancien régime, hein, privium lex, c'est-à-dire la loi pour soi.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour eux? le privilège.
Eh bien, j'aimerais que quelqu'un s'en occupe, au-delà de Simone de Beauvoir. Moi, je me suis contentée de le faire dans
vous
les.
Vous voudriez qu'il y ait une chercheuse après vos recherches qui prenne le relais.
Ou chercheur. Non, mais chez Sartre, ce mot-là est tout le temps dans l'existentialisme.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, justement, c'est très étonnant. Et elle l'emploie pour elle-même en disant j'ai eu ce privilège. Donc, vous savez, c'est 1924 qui inaugure l'égalité des accès à l'enseignement supérieur, du baccalauréat, donc l'enseignement supérieur. Donc, c'est un basculement.
Oui.
C'est un basculement très important. Donc, elle est face à son privilège qu'elle a eu.
D'être la première génération, c'est ça que vous voulez dire?
C'est la première génération.
Qui a pu y accéder.
Qui passent l'agrégation masculine. C'est Simone Veil, c'est Simone Fraisse, ma propre mère, qui est une historienne des idées, etc., etc. Donc, c'est très important parce que on leur a offert l'infinité du savoir. Donc, elle dit, c'est un privilège. Après, elle dira, dans son introduction toujours, nous sommes certaines femmes à avoir obtenu ça. Donc, la question n'est pas de dire, oh, bah, toutes les femmes peuvent passer le baccalauréat à l'agrégation. Non. C'est certaines femmes, et je vais me servir de ce privilège pour pouvoir analyser la condition des femmes. Condition qui est un mot qui me plaît moyen, comme on sait, mais ça, c'est pas le problème pour ici. Simplement, la question qu'elle représente la bourgeoisie, comme moi ici aujourd'hui, par exemple, elle a, dans un débat très rapide dans la cour de la Sorbonne avec Simone Veil, au moment où elles sont étudiantes toutes les deux en philosophie, et où Simone Veil lui balance, on voit bien que vous n'avez pas eu faim. Que vous n'avez jamais eu faim. Elle est déjà programmée pour faire ce qu'elle va faire, Simone Veil. Et nous saurons par les carnets publiés récemment qu'elle lui répond, il est question de sauver son âme, lui répond Beauvoir. Donc effectivement, là, il y a quand même un décalage important.
Simone Veil n'est pas d'un milieu très populaire non plus.
Non, mais elle, oui, mais alors par ailleurs, il faut lire. Alors ce qu'il faudrait relire, c'est Le sang des autres, 1945.
Ouais, on en a un peu parlé.
Vous en avez parlé parce que. L'idée, c'est que des commentateurs, et notamment de Simone Fraisse, c'est que les différents personnages représentent Simone Veil. Qu'elle a mis Simone Veil en...
Simone Veil avec W, cette fois-ci.
W, c'est nous sommes dans W.
Comme on a parlé de l'autre, il faut
faire attention. Pardon, excusez-moi.
Oui, la philosophe. Non, mais oui, pas du tout. C'est
sûr.
À moi de faire le boulot. Hein.
Mais donc, voilà. Donc, si vous voulez, cette question-là, je la connais bien. Elle est là depuis la démocratie. Le mouvement ouvrier depuis tout le temps. Nous la connaissons. Ce que nous savons, c'est deux choses. C'est un peu ça que j'essaye de dire. D'une part, que la position que nous occupons peut quand même ouvrir des fenêtres. C'est-à-dire que la question est pas de tout englober et de savoir ce qu'on peut produire. Et ce que produit Simone de Beauvoir, pour moi, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure et je crois que je peux le répéter, c'est comment je peux penser cette question-là.
Oui,
C'est-à-dire l'épistémologie. Pour finir, donc, et la deuxième chose, c'est, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'elle essaye de faire. Et de ce point de vue-là, nous l'avons, nous, honoré et admiré dans les années 70, pas pour le deuxième sexe, il fallait quand même que je le dise aussi ici aujourd'hui, pas pour sa présence.
Et aussi peut-être pour son engagement anticolonial, parce que je voulais quand même le rappeler par rapport à ce débat, c'est très important, là, d'elle-même comparer la situation des femmes à la situation des Noirs aux États-Unis. Là, la mémoire de l'esclavage est une chose fondamentale pour Beauvoir et pour Sartre, et la lutte anticoloniale est indéniable. Donc, on en reparle davantage de cela aujourd'hui, n'est-ce pas?
Alors, oui.
Je veux dire, tout en parlant de Simone de Beauvoir.
Tout à fait. Mais juste pour terminer sur mon petit développement, c'est que ce qu'elle m'a appris, et ça a donné un titre d'un texte que j'ai fait après, ça vient entre autres d'elle, c'est qu'il faut habiter la contradiction. C'est comme sur l'histoire du consentement qu'on a évoqué tout à l'heure.
Oui.
Moi, je propose d'habiter la contradiction. C'est-à-dire que de développer la contradiction, de montrer comment elle fonctionne, la contradiction, et non pas d'être dans le jugement politique qui va donner la ligne juste. Ça, c'est le choix que j'ai fait comme post-68art de années 70, et j'y suis encore, désolée.
Mais merci d'être là encore.
Non, mais
habiter
la contradiction, c'est que nous sommes dans la contradiction avec le féminisme. On le sait. Et il faut montrer en quoi. C'est comme quand je disais que la théorie, c'est vrai en pratique. Et la parité, pardon.
C'est vrai en pratique, pas en théorie. Vous le redites là. Hein. C'est
ça,
intéressant.
C'est une inversion de Kant, une phrase kantienne. je suis dans la.
Une émission de philo, en effet. Oui.
Et donc, si vous voulez, moi, je pense que nous sommes obligés. J'avais fait une autre formule, j'avais voir et savoir la contradiction. C'est-à-dire qu'il faut l'habiter. Et je crois que ça nous permet de développer les enjeux au lieu de se condamner à dire « elle a raison, elle a tort, c'est bien, c'est mal ». Je n'ai jamais travaillé comme ça. Je cherche à comprendre et comment ça pense, justement. Et là, on peut aller quelque part. Et vous voyez que ça ne m'a pas empêché de dire oui au gouvernement Jospin ou de dire oui à Robert Hue pour la liste de communistes non communistes du Parlement européen. Donc tout ça parce que le féminisme, c'est-à-dire que la nécessité, vous voyez, puisque vous parliez de la parité au début, pourquoi je le fais ? Parce que je ne me contente pas de, dans ma chambre et d'écrire Muse de la raison, puis les textes qui ont suivi. Je pense que ça veut dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'y aller, quelle que soit la contradiction.
Marine Rouge.
Oui, moi j'aime beaucoup. Pardon,
je réagissais parce que de toute façon, moi, il ne reste plus beaucoup de temps. J'aurais voulu qu'on aborde la question des liens entre Beauvoir et l'œuvre de Beauvoir et les théories du genre, puisque je crois comprendre qu'à la fois elle est utilisée au sein des théories du genre qui elles-mêmes sont variées, et aussi utilisée chez les adversaires. Tout ça est très complexe. Donc on n'a pas le temps. Donc je vous laisse. Il vous reste une bonne minute. Bon. Je vous laisse conclure sur ce qui vous paraît le plus important dans notre discussion qui vient de se tenir.
Alors moi, je vais conclure sur et rebondir sur ce que Geneviève Fraisse disait sur habiter la contradiction. C'est comme ça que j'envisage mon rapport aux œuvres de Simone de Beauvoir, qui pose des problèmes. Il y a certaines impasses. Elle est critiquée. Si depuis les années 2010, 2015, 2016, il y a une sorte de renaissance pour l'intérêt pour Beauvoir avec l'entrée dans la Pléiade, etc. Il y a quand même d'autres critiques et qui sont tout à fait entendable et juste. Je pense à mes collègues de la Simone de Beauvoir Society, qui, comme Catherine Sophia Bell, qui travaille sur les impasses, enfin les biais racistes de Simone de Beauvoir. Je pense à mes collègues qui travaillent sur la question trans, etc., qui travaillent avec l'œuvre de Simone de Beauvoir en tension. C'est une figure qui est controversée. Elle est pas consensuelle. Et tant mieux. Et c'est tant mieux. C'est justement ça, cette question de la contradiction et de la tension. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que on l'efface complètement ? Est-ce que on continue ? Il y a deux tendances. Soit on l'efface et on dit qu'on n'utilise plus ses œuvres. Soit on la défend aveuglément. Moi, je suis entre les deux. C'est-à-dire que pour continuer à la mobiliser, il faut arriver à tenir ensemble ces deux tendances. D'abord pour être fidèle à nos généalogies féministes, c'est une question de l'éthique féministe, c'est aussi la responsabilité de recréer nos généalogies féministes et cette éthique de la relationnalité, hein, et puis d'identifier les biais, d'identifier les impasses et de les mettre en conversation avec d'autres penseuses. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est ce qui m'intéresse. Voilà.
Et maintenant, un peu de punk. Par le groupe de punk rock britannique Penetration, 1978. Merci beaucoup Geneviève Fraisse et Marine Rouche.
Les références de vos travaux sont sur notre site. C'est la fin de la série de cette semaine consacrée à la pensée de Beauvoir, à quelques jours de la Journée internationale des femmes du 10 mars. Du 8 mars, pardon, je signale un ouvrage qui paraît aujourd'hui même aux éditions de Philosophie Magazine, une conversation entre Laure Adler, Emma Becker et Romain Rossac, orchestrée par Martin Legros et Karim Rissouli et intitulée « Les femmes vont-elles libérer les hommes ?» Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Vorm cette semaine. Il s'intéresse à la perte et à l'orientation. Voici le pourquoi du comment.
Comment s'orienter dans l'effondrement ? On a beau dire, et on a raison de dire, que l'orientation est toujours un problème subjectif, il y a malgré tout des conditions objectives qui nous égarent et qui nous désorientent en profondeur. L'orientation n'est jamais seulement, en effet, un phénomène objectif. On est d'abord perdu en tant que subjectivité. Je ne sais plus où je suis, c'est ma pensée qui ne me situe plus dans le monde. Et le rapport à soi dépend précisément de cette capacité à savoir où je suis, où j'en suis. Où suis-je ? C'est la question de l'être égaré qui se réveille d'un engourdissement, d'un évanouissement ou après une catastrophe. Où suis-je ? Que m'est-il arrivé ? Mais d'abord, peut-être, où suis-je ? Et il y a donc besoin de ces orientations subjectives, sociales, philosophiques, éthiques, politiques. Mais malgré tout, les désorientations produites par la perte, par le deuil, par l'égarement dans un monde devenu complexe et qui réclame une sorte d'éducation et de protection de la subjectivité, du rapport à soi, ne sont pas suffisantes si le monde lui-même est en train de s'écrouler. Peut-être vivons-nous aujourd'hui une expérience globale de la désorientation due à l'effondrement de repères collectifs qui nous semblaient jusqu'ici acquis et stables. Nous vivons peut-être aujourd'hui dans différents domaines une perte des repères qui explique aussi pourquoi, pour se réorienter dans le monde, il y a un désir de protection, un désir de repères, un désir de fermeture. On s'orienterait mieux, en effet, dans une société assez close, alors qu'aujourd'hui, à travers les réseaux d'information, à travers la mondialisation économique, à travers les problèmes climatiques, l'effondrement du monde semble en effet laisser l'orientation subjective presque dérisoire, les repères politiques et éthiques de la démocratie ou de nos sociétés presque impuissants face à ce qui s'effondre. Or, il ne faut pas céder, justement. Les psychologues, les philosophes aussi nous montrent que même l'effondrement du monde, même les transformations les plus profondes du monde ont une dimension subjective. Nous avons l'impression de l'effondrement que parce que nous en avons peur. Ce n'est pas un effondrement objectif seulement qui produit cette perte des repères, cet égarement ou cette désorientation profonde. Bien sûr, il y a des changements majeurs, il y a des catastrophes possibles. Et comment ne pas être désorienté après un tsunami ou une catastrophe nucléaire ou un grand feu ou une inondation ou quelque chose ou une guerre qui vient tout détruire. Mais malgré tout, l'effondrement, c'est d'abord l'effondrement des repères moraux. C'est l'effondrement de ce qui nous tenait. Winnicott, dans son grand article « La crainte de l'effondrement », a montré que l'effondrement a toujours déjà eu lieu. Pour l'être humain, c'est d'abord la peur de l'effondrement absolu qu'il vit dans la détresse qui suit sa naissance. Ainsi, nous avons construit des repères, des balises pour nous protéger contre cette détresse, cette panique face à l'effondrement. Il y a aujourd'hui des effondrements objectifs, mais nous savons comment y répondre. Il faut reconstruire les barrières et d'abord les liens humains, mais aussi les principes fondamentaux qui sont nos seules réponses face à cette désorientation généralisée. Oui, il y a des changements majeurs, mais oui aussi, nous savons comment y répondre, parce que nous l'avons tous déjà fait face aux catastrophes qui nous ont menacés, tous autant que nous sommes, et qui nous apprennent comment résister à la panique généralisée.
Merci Frédéric Vorms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Paul Guig. Elle a été préparée en particulier par Shai Magiboire, que je remercie d'ailleurs pour son aide sur toute cette série. Et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Axel Dubois, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!